Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. L'avenir nous dira si cette journée aura été décisive dans l'histoire du mouvement pro-démocratie de Hong Kong. Mais l'annonce du retrait du texte controversé sur de possibles extraditions vers la Chine continentale à l'origine de la mobilisation est un événement. Après 3 mois de manifestations géantes, de refus des revendications et de menaces d'intervention militaire de Pékin, la chef de l'exécutif hongkongais Carrie Lam, soutenue par la Chine continentale, a fait un pas qu'elle se refusait à faire jusqu'à présent. Elle invite aussi au dialogue. Trop tard, trop peu, disent déjà les leaders de la contestation. Après ce retrait, quel avenir pour le mouvement pro-démocratie et pour Hong Kong? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Antoine Bondaz, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la Chine et de la Corée et enseignant à Sciences Po. Et François Bougon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Mediapart, spécialiste de l'Asie, auteur des livres Dans la tête de Xi Jinping chez Actes Sud et La Chine sous contrôle aux éditions du Seuil. On commence évidemment par l'événement du jour, l'annonce du retrait au mois d'octobre du texte sur les extraditions qui a mis le feu aux poudres il y a 3 mois. Qu'en pensez-vous? Vous êtes surpris ou vous vous y attendiez, Antoine Bondaz?
Alors c'est évidemment une surprise, puisque pour l'instant la position officielle des autorités de Hong Kong et de Pékin, c'était l'intransigeance, c'est-à-dire qu'il ne faut répondre à aucune des 5 demandes des manifestants. Maintenant, ce qui est vraiment important de voir, si cela va convaincre une partie des manifestants d'arrêter. Le grand problème, c'est que entre mi-juin et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de violence, et que de la part et du point de vue de nombreux Hongkongais, la vraie question qui se pose est une question à long terme, c'est celle du maintien ou non de ce haut degré d'autonomie, qui est encore une fois censé être préservé et garanti par la loi fondamentale de 1990. Et là, rien n'est moins sûr qu'encore une fois, les manifestants soient convaincus aujourd'hui que ce haut degré d'autonomie va être préservé.
François Bougon, vous êtes surpris par ce changement de pied de Carrie Lam?
Bon, surpris en tout cas, c'est vrai que c'est un geste qui est plutôt fort en fait, si on regarde la séquence, et comme le soulignait Antoine Bondaz, c'est assez inattendu. Après, c'est vrai que à la fois en juin et en juillet, elle avait déjà évoqué le fait que c'était suspendu. C'est vrai que l'utilisation des termes, par exemple en chinois, elle avait utilisé une expression qui veut dire « cette loi est morte de sa belle mort », mais ça ne suffisait pas aux yeux des opposants. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on est, la grande question, c'est est-ce qu'on est rentré? Parce que si vous écoutez ces 5 minutes d'adresse télévisée, il y a quand même une volonté d'ouvrir un dialogue. À la fois d'ouvrir un dialogue et de s'attaquer aux réseaux profonds, économiques, socio-économiques, au désarroi de la jeunesse. Donc, est-ce que une partie de ceux qui se sont opposés au projet d'extradition vont réussir à être convaincus, comme le disait Antoine Bondaz? Oui, ça c'est la grande question. Il y aura sûrement des divisions au sein des opposants.
Antoine Bondaz.
Ce point-là est extrêmement intéressant, puisque hier, une déclaration à Pékin du Bureau des affaires de Hong Kong et de Macao disait très clairement que non seulement ce n'est pas une crise politique, mais c'est une crise économique et sociale. Et deuxièmement, le deuxième argument, c'était de dire cette crise est une crise à Hong Kong et ce sont les autorités de Hong Kong qui, par le dialogue, doivent essayer de la résoudre. Et on voit en réalité aujourd'hui que la déclaration de Carrie Lam et l'annonce, encore une fois, du retrait définitif de cette loi s'inscrivent en réalité dans les annonces indirectement faites par Pékin hier, même si, encore une fois, hier, rien ne laissait penser assez explicitement que le retrait serait annoncé aujourd'hui.
C'est vrai qu'on avait un peu de mal à imaginer que Carrie Lam ait décidé ça toute seule, ou alors elle prenait un risque personnel assez important. Quel est le message du régime chinois avec cette annonce, François Bougon?
Je pense que c'est ce que disait Antoine précédemment, c'est-à-dire que en fait, il y a quand même la volonté de dire à l'exécutif hongkongais, dans la marge de manœuvre étroite dont le ou la chef de l'exécutif dispose à Hong Kong, il y a quand même une certaine marge de manœuvre. Et donc, en fait, je pense qu'il y a une volonté aussi de Pékin de dire, écoutez, c'est aussi aux Hongkongais de régler leurs propres problèmes. Et je pense que politiquement, c'est pas totalement inintéressant, surtout que à l'étranger, on a tendance à la présenter comme étant une marionnette de Pékin. Donc voilà. Après, c'est vrai que
faut rappeler qu'elle existait déjà avant la rétrocession. Elle était dans les cercles du pouvoir depuis longtemps.
Oui, oui, c'est une fonctionnaire fidèle et zélée, on peut dire. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est que on a eu une séquence de cette semaine. On a eu un week-end de violence, de nouvelles violences. Lundi, il y a eu un fait qui était important à noter. Alors après, moi, j'ai pas la capacité, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, l'agence Reuters diffuse un enregistrement d'une discussion que Carrie Lam a eu lors d'une rencontre la semaine dernière avec des hommes d'affaires, où elle dit, en gros, oui, peut-être que je vais démissionner, mais on veut pas, etc., etc. Et donc, est-ce qu'on est en face d'une sorte d'opération de relations publiques, de communication pour faire apparaître Carrie Lam comme étant assez douce, etc., etc. Et puis aujourd'hui, s'ouvrant à la société et à ceux qui veulent et tendant la main d'une certaine manière. Donc on va voir ce que va donner la suite et ce que vont donner notamment les prochaines mobilisations.
Est-ce qu'il y a des contreparties auxquelles la Chine s'attend? Un arrêt immédiat des manifestations, Antoine Bonda, c'est pas dit comme ça, mais bon, voilà, c'est une concession quand même assez importante.
Alors, c'est une concession importante. Je pense que du point de vue de Pékin, il y avait une dynamique qui était extrêmement négative et que Pékin ne voit pas comment Hong Kong et les autorités de Hong Kong et Pékin plus largement peut s'en sortir. C'est-à-dire que d'ici le 1er octobre, 70e anniversaire de la République populaire de Chine, il faut faire en sorte, du point de vue de Pékin, que ces manifestations se calment.
Oui, il faut du calme, oui.
Pas forcément qu'elles s'arrêtent définitivement, mais en tout cas que la dynamique change. Deuxième objectif, c'est de recrédibiliser, en quelque sorte, Carrie Lam, et de s'assurer, indirectement, que Carrie Lam reste, et que Carrie Lam n'apparaisse pas comme complètement démonétisée. Et le fait d'avoir annoncé ce retrait permet à Carrie Lam, pendant au moins plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de reprendre un intérêt politique, puisqu'encore une fois, elle va ouvrir ce dialogue. Alors, la contrepartie attendue par Pékin, c'est évidemment la fin des manifestations, et ça a été dit très clairement hier par Pékin. L'objectif, il est clair, c'est rétablir l'ordre, avec une menace tout de même, et ça, il faut le souligner, c'est qu'en ayant retiré le projet de loi, l'argument de Pékin désormais va être que les manifestations n'ont plus de raison d'être, que les manifestants qui continuent de manifester sont, comme il le présentait il y a plusieurs semaines, des sécessionnistes. Et ça, c'était encore une fois extrêmement clair hier, puisqu'une partie de ces manifestants était décrits comme souhaitant remettre en cause l'autorité, encore une fois, de Hong Kong, et même l'autorité, évidemment, de Pékin sur Hong Kong.
Dernière concession, dernier avertissement avant intervention, François Bougon, est-ce que le message sous-jacent, c'est ça, on fait une grosse concession, maintenant, c'est la fin, quoi.
J'ai jamais, je suis parti de ceux dans ce débat sur savoir est-ce qu'il va y avoir intervention ou pas. J'ai toujours considéré que, à l'heure actuelle, on n'avait pas les facteurs pour une intervention. Je pense que Pékin a beaucoup à perdre dans une intervention. Ça serait trop risqué pour eux. Je pense que à la fois Pékin, mais en même temps l'exécutif hongkongais dispose d'outils pour pouvoir, en tout cas, apaiser la situation. Après, la difficulté à laquelle Carrie Lam va faire face, c'est d'essayer de trouver des interlocuteurs qui soient considérés par ceux qui se sont mobilisés contre le projet de loi comme suffisamment crédibles pour présenter leur voix. Alors la difficulté du mouvement d'opposition, c'est que il y a pas vraiment de leader, en fait. Voilà, ça sera toute la question des semaines à venir.
Mais alors justement, on va passer à cette question là quelle va être la suite du mouvement pro-démocratie? À présent, les revendications se sont additionnées en 3 mois, hein. Il y en a 5 principales, vous l'avez dit, Antoine Bondaz, et toutes n'ont pas été satisfaites. Ça veut dire que est-ce qu'il va y avoir volonté d'aller encore plus loin?
Alors encore une fois, la loi d'extradition était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il faut vraiment remettre dans le contexte plus long, qui est la remise en cause progressive depuis 97 du haut degré d'autonomie qui était normalement garanti à Hong Kong. En 2014, la révolte des parapluies, puis l'arrestation, la disparition de libraires, l'arrestation de certains représentants politiques. En réalité, la loi d'extradition, encore une fois, était un élément parmi d'autres. La jeune génération aujourd'hui, c'est ça qui est fondamental pour Pékin. La jeune génération à Hong Kong se politise, a des revendications et essaye de préserver la situation actuelle, voire même de revenir à la situation d'il y a quelques années, c'est-à-dire garantir à tout prix les libertés publiques. Et les images qui étaient assez fortes, c'est notamment ces grèves d'étudiants et même dans les écoles, les collèges pardon, et les lycées à Hong Kong lundi et mardi,
depuis le début de la
semaine, jeunes étudiants, ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui disaient tout simplement voilà, nous voulons garantir les libertés et garantir le modèle à Hong Kong. Et ça, c'est le grand défi, tant pour les autorités de Hong Kong que les autorités de Pékin, c'est de gérer, encore une fois, la politisation de cette génération.
Oui, François Bougon, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ?
Oui, non, sur la question de fond, elle reste, en fait. Est-ce qu'on va assister jusqu'en 2047 à des successions de crises ? On peut imaginer que ce seront des conflits à la fois de basse intensité, et puis tout d'un coup surgiront des crises comme ça. Parce que la question de fond, c'est est-ce que Hong Kong peut s'intégrer, peut être dissous dans la République populaire de Chine ? C'est ça la question de fond. Et c'est ce que souligne Antoine, c'est-à-dire que les jeunes générations... Elle s'éloigne de plus en plus de la Chine. Et donc, ça va être très compliqué, à mon avis, d'avoir des générations nouvelles qui se sentent totalement chinois, en fait. C'est ce que veut Pékin, mais eux ne le veulent pas.
La Chine a, pendant le mouvement, expliqué qu'elle allait se désintéresser un petit peu de Hong Kong et davantage développer le rôle des villes voisines qui sont mieux contrôlées, puis plus sages, que sont Shenzhen et Macao. C'est quelque chose c'est une idée qui va continuer dans la tête des dirigeants chinois. Antoine Bondaz.
Alors, c'est un argument qui a été utilisé plusieurs fois et qui recoupe plus largement le grand argument économique, qui était de dissuader les manifestants de poursuivre, l'argument étant cela a un coût économique trop important pour Hong Kong, ce à quoi les manifestants répondent que leurs revendications politiques ont potentiellement un coût économique et qu'ils sont prêts à les assumer. Plus largement, l'économie à Hong Kong souffre partiellement en tout cas, de ces manifestations, la croissance ralentit. Alors, c'est aussi dans un contexte plus large, de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les autorités de Hong Kong ont annoncé mi-août un plan de relance de l'économie. Et la stratégie aujourd'hui de Pékin, c'est toujours pour dissuader les manifestants, de dire voilà, nous allons investir sur Shenzhen. Alors Shenzhen, effectivement, aujourd'hui, a un poids économique quasiment égal à celui de Hong Kong en termes purement de PIB, mais Shenzhen, vous avez beaucoup plus d'habitants. Et puis, ce n'est pas la même attractivité. À Shenzhen, vous avez des entreprises chinoises. Vous avez Huawei, notamment.
Oui, des usines, avez... beaucoup. Alors qu'à Hong Kong, c'est plus des services bancaires, notamment.
Exactement, mais vous avez une attractivité à Shenzhen qui est une attractivité pour les entreprises chinoises. L'attractivité d'Hong Kong, c'est une attractivité internationale. Allez dire à n'importe quel banquier d'investissement aujourd'hui basé à Hong Kong qu'il va demain aller travailler à Shenzhen. Ils partiront de Hong Kong. Ils n'iront pas à Shenzhen, ils iront à Singapour, ils retourneront à Londres ou ils iront ailleurs.
Justement, j'aimerais rebondir là-dessus, François Bougon. Est-ce qu'il y a des... Et Antoine Bondaz vient de l'expliquer. Peut-être que vous avez des choses à ajouter. Est-ce qu'il y a des facteurs extérieurs qui expliquent cette décision ? Le poids du conflit commercial avec les États-Unis, par exemple. Donald Trump, pendant ces 3 mois, a expliqué que il fallait pas que la Chine réagisse violemment à Hong Kong. Est-ce que ça a pesé ?
Ça a dû peser. Alors, il y a eu une réunion hier, je crois, à l'école centrale du parti, où Xi Jinping a fait un discours où il a averti les cadres du parti qu'il fallait... que au programme, c'était la lutte. Il fallait lutter, qu'il y avait plein de situations d'adversité. Alors, il a cité notamment Hong Kong, Macao, enfin, tous ces sujets-là, Taïwan. Et puis, par ailleurs, il a cité ce qu'ils appellent la situation internationale compliquée. C'est, en l'occurrence, c'est les États-Unis. Donc, c'est évident que ça a joué un rôle. Après, c'est deux choses différentes. Hong Kong, aux yeux des dirigeants chinois, ça appartient à la sphère nationale. C'est pas un sujet diplomatique. Donc c'est pour ça que
il y a deux systèmes, mais il y a quand même d'abord un pays.
Un pays et c'est ça que les dirigeants de Pékin ont du mal à comprendre. C'est que quelle est leur stratégie en fait ? Ils ont la même stratégie envers Hong Kong que la stratégie qu'ils ont eue à la fois au Xinjiang et au Tibet, c'est-à-dire l'assimilation. Et c'est pour ça que les habitants de Hong Kong qui ont leurs propres coutumes, à la fois en matière d'état de droit, mais aussi dans la langue.
Oui, le cantonais. C'est pas la même langue, oui, absolument.
Et les Hongkongais se plaignent beaucoup de l'arrivée de Chinois du continent qui ne font pas l'effort de parler le cantonais. Eux, ils disent, nous, on s'est mis au mandarin. On parle le mandarin, etc. Et à eux, pourquoi ils ne parleraient pas cantonais ?
Antoine Bondaz, c'est sur cet aspect d'appartenance, d'identité. C'est quelque chose, vous le disiez, qui On va dans le sens inverse de ce que souhaite Pékin, tout simplement.
On le voit à Hong Kong, on le voit à Taïwan. La jeunesse a une identité taïwanaise, une identité hongkongaise. Ça ne veut pas pour autant dire que les Hongkongais souhaitent l'indépendance de Hong Kong. Ce n'est pas la question. Ils reconnaissent qu'ils font partie de la Chine, mais ils veulent encore une fois ce haut degré d'autonomie. Pour revenir peut-être sur les objectifs de Pékin, alors Hong Kong, c'est fondamental. Le risque de contagion, s'il était avéré, serait un vrai problème pour la Chine. Je pense que pour l'instant, la question se pose pas vraiment. Plus largement, pour la Chine, et quand Xi Jinping parle de lutte, c'est que le contexte international est en train de se dégrader et que la Chine, de plus en plus, est en train de rentrer dans ce qui était théorisé il y a déjà quelques années, de dilemme de l'ascension, c'est-à-dire comment poursuivre une croissance élevée, qu'elle soit économique ou plus largement en termes de capacité nationale, alors que les États-Unis, forcément, vont de plus en plus s'y opposer. Et quel que soit le résultat de l'élection présidentielle en 2020, les relations entre la Chine et les États-Unis vont être de plus en plus compliquées pour des raisons structurelles. Et ça, le leadership chinois doit y faire face. Et un élément fondamental, comme rappelé par Xi Jinping hier, c'est l'unité du parti. Et ça, ça va être vraiment un thème majeur dans les mois qui viennent.
La Chine, pendant cette période de 3 mois, qui n'est pas finie, on ne sait pas comment ça va évoluer, hein, elle a montré ses muscles, elle a massé des troupes à la frontière, elle a multiplié les avertissements. Ça n'a pas empêché le mouvement de continuer, voire de s'étendre. Est-ce que avec cette concession, elle ne montre pas un petit peu un signe de faiblesse, François Bougon? Quelle va être la conséquence pour l'image? Voilà, c'est ce que disait Antoine Bondaz. Est-ce qu'il peut y avoir une contagion quand on voit ça?
Ouais, je pense pas que ce soit de la faiblesse. Je pense que c'est du pragmatisme. Il faut jamais oublier que le régime chinois, il est à la fois sous Xi Jinping, il est à la fois très idéologique, ça je le dis tout le temps, mais aussi à des moments opportuns, il sait faire preuve de pragmatisme. Et donc, je pense que c'est forcément quelque chose d'assez subtil qui demande à être manié à certains moments. Mais je pense que là, typiquement, on est dans un moment où le Pékin a décidé qu'il fallait un peu desserrer. Et à mon avis, c'est pas de la faiblesse. C'est juste...
Un assouplissement ou...
C'est stratégique. C'est, voilà, on est dans un jeu à l'heure actuelle, avec des acteurs différents, etc. Donc, à un moment donné, tout ça est fait pour... à la fois démobiliser l'opposition aussi. Il y a quand même une grande partie de la société hongkongaise qui soutient jusqu'à présent les plus jeunes, les plus radicaux, etc. Et peut-être que eux vont se dire, bah pourquoi pas écouter Carrie Lam, elle parle de main tendue, etc. Prenons sa main et commençons à discuter.
Antoine Bondaz, assouplissement, stratégie. Ouais, effectivement, c'est quoi cette offre de dialogue de Carrie Lam? Ça correspond à quoi?
Alors encore une fois, je pense qu'il faut vraiment reprendre les propos non pas de Carrie Lam, mais ceux du représentant du bureau des affaires de Hong Kong et de Macao hier à Pékin, qui dit à la fois il y a un tournant, il faut désormais rétablir l'ordre le plus rapidement possible, et le deuxième message c'est un problème socio-économique à Hong Kong et les autorités d'Hong Kong doivent le régler. Et donc le message de Pékin, c'est pas un message de faiblesse, c'est un message de maintenant c'est un problème hongkongais, vous le réglez entre vous. Mais l'impératif, c'est le retour à l'ordre. Alors, le fait de communiquer sur, non pas des chars, mais des équipements ce qu'on appelle la police armée à la frontière chinoise.
Des blindés, non pas à chenilles, mais à roues, quoi. En fait, c'est ça.
Exactement.
Alors, c'est pas les manifestations en France, hein, d'ailleurs.
C'est pas ce qu'on appelle l'armée populaire de libération, c'est ce qu'on appelle la police armée du peuple, qui a un autre rôle, notamment le maintien de la, entre guillemets, stabilité sociale. Le message de Pékin, c'est-à-dire, toutes les options sont ouvertes. Non pas nous les amassons parce que nous préparons une intervention physique à Hong Kong, mais à la fois en termes de communication, comme le disait très bien François Bougon, et aussi en termes de purement politique, de dire toutes les options sont ouvertes. Ça ne veut pas dire que nous allons le faire, mais c'est une option comme une autre.
Il vous reste quelques secondes.
Oui, il y a un autre élément aussi. On peut aussi se demander si Carrie Lam, peut-être qu'à un moment donné, elle va être débranchée. Hein. On ne sait jamais. On l'a vu en 2003 avec le chef de l'exécutif de l'époque. Voilà, pourquoi pas. Peut-être que Pékin a dans sa manche un autre atout et qu'à un moment donné, elle sera remplacée.
Merci François Bougon. Merci à vous également Antoine Bondaz d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Vanadis Feuil à la documentation et à la réalisation aujourd'hui Fabrice Violet. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.